France Culture.
Réplique, la maison vide, avec Laurent Mauvignier. La maison vide de Laurent Mauvignier est un roman magnifique. Je l'ai lu, le cœur battant, et j'accueille aujourd'hui son auteur avec timidité. Pour surmonter cette appréhension, je rouvre le livre et je lis l'épigraphe. Des paroles ou des bruits entendus et qui nous ont pénétrés, peut-être à notre insu, remuent en nous un monde ignoré de nous-mêmes. C'est signé René Boislève. Que signifie cet épigraphe? Qu'annonce-t-il? Et pourquoi René Boislève, Laurent Mauvignier?
René Boislève, c'est un auteur que j'ai découvert il y a très très longtemps, en fait, parce qu'il est du même village que moi, de Descartes. Ah oui. Et donc, il avait sa rue, il avait la ville des trois René, René Descartes, René Boislève, et le troisième, je l'ai oublié. Mais René Boislève, évidemment, je l'ai lu pour le coup tardivement, parce que c'est pas un auteur qu'on trouve facilement, et puis qui paraît aujourd'hui être un auteur mineur, alors qu'il a une très belle histoire, il a quelque chose de très pré-proustien. Et moi, quand je l'ai découvert, j'ai été surpris par la beauté de la langue, par j'ai trouvé que c'était.
Qu'est-ce qu'il faut lire de lui?
Il a fait plein de récits qui ont été vendus un petit peu comme des choses vaguement légères, etc. Alors qu'en fait, il y a sur le monde de la campagne ou sur des choses comme ça, des choses très belles. Alors on a l'impression d'une sorte de chaînon manquant pour le coup entre le 19e et Proust. Alors j'avais lu une histoire quand même très très belle sur lui, c'était que quand il était assez jeune, il a commencé à écrire, il avait un projet d'une sorte de saga qui serait un peu l'histoire de la disparition de l'aristocratie au bénéfice de la grande bourgeoisie, et ça s'appelait « La fin d'un monde ». Il voulait faire 8 volumes, et il a rencontré quelqu'un à l'époque qui était important, qui s'appelait Monsieur Gantrax, je crois, une sorte de conseiller littéraire, qui lui a dit « Malheureux, ne faites pas ça, vos phrases sont beaucoup trop longues, on va rien y comprendre, et franchement, ça n'a aucun intérêt, faites des livres courts, avec des phrases plus resserrées. » Ce qu'il a fait, alors il a eu un certain succès, il est entré à l'Académie française, il a eu une vie...
C'était dans quelles années?
Fin du 19e. Et évidemment, quand Proust est arrivé, le pauvre homme, il s'est dit « je n'ai peut-être pas bien fait d'écouter M. Gantrax ».
Mais oui, en fait. Voilà. Il aurait pu faire sa recherche de temps
voilà.
perdu.
Et en fait, au début, il a été très hostile à Proust. Et puis au fur et à mesure, ils se sont rencontrés et ils se sont écrits. Et il a fait totale allégeance à Proust en disant « Bon, en fait, ma vie n'a servi à peu près à rien, puisque c'est vous,
lui.
Quoi. »
C'est lui.
Mais je trouve cette histoire très belle parce qu'il a eu quand même la force de le reconnaître quoi, et d'accepter ça. Je trouve ça beau.
Et alors, et pourquoi cet épigraphe? Que dit-il, qu'annonce-t-il du roman lui-même, La maison vide, Laurent Mauvignier?
Cet épigraphe, je l'avais en tête, mais vraiment bien avant de commencer l'écriture du livre, avec cette idée de comment nous sommes tous traversé par des histoires qui nous sont inconnues, mais qui nous façonnent quand même. Et j'aimais bien ce côté iceberg, ce côté souterrain, comme ça. C'est un peu l'histoire qu'on connaît plus ou moins de Hergé trahissant un secret de famille dans un de ses albums, alors qu'il est censé l'ignorer totalement, quoi. Je crois assez volontiers à ça, quoi. Nous sommes tous traversés par des histoires que parfois on ignore, parfois qu'on connaît, mais qui agissent en nous. Et donc, j'entendais un peu ça dans cette phrase de Boislève. Quoi.
Oui, mais alors justement, votre livre, La maison vide, Laurent Mauvignier, est une enquête généalogique. Tous les personnages sont des personnes réelles, de votre propre famille. Ça commence, en fait, le roman lui-même à votre arrière-grand-mère, Marie-Ernestine. Ça va jusqu'à votre grand-mère, Marguerite, nous les verrons les uns après les autres, mais c'est extraordinaire parce que c'est une enquête généalogique et c'est aussi et totalement un roman. Vous le dites d'ailleurs très vite, je ne fais que des suppositions, des spéculations du roman. Je ne fais que du roman. Et vous dites en même temps, ce monde, je ne l'invente pas, je le reconstruis pièce à pièce. Donc dans cette reconstruction, l'imagination joue un rôle central. L'enquête est confiée à l'imagination.
Ouais,
vous avez quelques éléments, mais en fait vous remplissez tous les vides. On assiste évidemment à des scènes qui ne peuvent pas vous avoir été racontées, notamment, nous le verrons, une nuit de noces pathétique entre Marie-Ernestine et votre arrière-grand-mère et Jules, son mari, et vous dites il s'agit de faire barrage à l'oubli par tous les moyens dont je dispose. Mais de cette histoire familiale, vous avez fait quelque chose, vous avez écrit une surmesure à partir de faits vérifiés. Mais justement, comment avez-vous procédé, Laurent Mauvignier, pour faire reposer sur l'imagination une enquête généalogique qui se veut, malgré tout, aussi précise que possible?
Disons que j'avais des éléments, mais qui étaient totalement éloignés les uns des autres, pour pas dire parfois même un peu contradictoires. La question de l'imaginaire, là-dedans, ça a été de créer des passerelles entre des images dont j'avais à peu près la certitude qu'elles étaient vraies, quoi. Mais donc, pour créer ces passerelles-là, par moments, je suis allé chercher, j'ai fait des recherches, etc. Mais soit c'était banal, soit c'était factuel, mais jamais suffisant. Et puis surtout, ça ne touchait jamais rien d'humain, en fait.
Mmh.
Donc, à chaque fois, je me disais, mais en passant par un narrateur, qui serait moi ou un double, en tout cas, je me disais, si je passe par ses souvenirs, par les souvenirs des récits qu'il a entendus, si je glisse comme ça, et que je m'ouvre à des images, à un imaginaire, là, je vais peut-être pouvoir toucher quelque chose où l'histoire ne pourra pas entrer, en fait.
Mais alors, vous dites aussi que votre motivation souterraine, cette reconstitution d'une histoire familiale, pose peut-être en filigrane les prémices des questions qui me taraudent depuis mes 16 ans, année du suicide de mon père, sur ce qui pousse un homme comme lui à mettre fin à ses jours. Comme si il y avait un destin familial qui avait conduit votre père, alors que vous aviez 16 ans, à ce geste toujours aussi douloureux et toujours aussi difficilement compréhensible pour vous, Laurent Mauvignier.
Je dirais pas un destin, en fait. Pour moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai plutôt essayé de remonter une machine, comme si c'était un moteur, en fait. Presque, il fallait, bon, qu'est-ce qui a pu se passer de manière, j'ai essayé de rationaliser un petit peu ça en me disant, bon, qu'est-ce qui a pu se passer, effectivement, pour mener un homme au suicide? Mais il y a, par exemple, il s'est passé une chose qui a été très importante pour le coup. Ça a été au moment de l'enterrement de mon père. L'église a à l'époque refusé d'enterrer les suicidés, religieusement. Donc, le médecin a été obligé de faire une déclaration comme quoi il était mort des suites d'une dépression. Et alors, évidemment, vous avez 16 ans, vous êtes très en colère, en fait, quoi. Et j'ai eu un écho vraiment très fort de ce qu'on me racontait sur ma grand-mère. C'est-à-dire, je sentais, quand on parlait de ma grand-mère, que c'était toujours à contre-cœur, et qu'on disait, elle est morte d'alcoolisme. Bon. Alors que je savais, les autres grands-parents, tout ça, je savais de quoi ils étaient morts, comment, etc. Et là, je me disais, c'est bizarre. Et je trouvais qu'entre la mort de mon père et celle de sa mère, il y avait une façon de ne pas dire. Et donc, j'ai eu besoin de remonter vers cette grand-mère pour essayer de comprendre quelque chose. Je me dis, mais comme si les deux choses étaient liées. Et pour moi, elle l'était, quoi. Mais c'était très, très diffus, très, très opaque, tout ça.
D'accord. Alors, très bien. Nous allons donc en venir au personnage de votre roman. Mais à un moment donné, d'ailleurs, vous parlez d'un mécanisme meurtrier. Vous utilisez le terme de déterminisme social et vous dites « Je m'obstine à croire qu'on peut lire à travers l'épaisseur des siècles des signes qui nous dessinent, nous façonnent en partie, une partie non négligeable de ce que nous pensons être nous-mêmes. Mmh. » Donc il y a cela, donc ça remonte à la grand-mère, mais commençons par le commencement, c'est-à-dire votre arrière-grand-mère Marie-Ernestine. Marie-Ernestine, c'est la fille préférée de Firmin Proust. Ouais. J'ai appris cela. Donc, c'est un propriétaire terrien, paysan. Et il adore sa fille, parce que ses fils l'ont déçu. Il y en a un qui l'a envoyé chez les curés, mais qui, à ses égards, en faisait un peu trop. Et l'autre, qui lui paraissait efféminé, et qui a voulu aller travailler dans un grand magasin, vendre des fanfreluches. Donc il a reporté tous ses espoirs sur Marie-Ernestine. Il l'a mise au couvent. Elle était une très bonne élève au couvent. Et puis elle a découvert le piano. Elle a découvert le piano à l'aide d'un professeur de piano dont nous reparlerons, Florent Cabanel. Elle était très douée. Elle revient à la maison après ses études au couvent et elle apprend deux choses. D'abord, elle découvre que son père lui offre un très beau piano à queue. Donc vraiment, il a cassé sa tirelire. Et en même temps, il la marie. Il dit, voilà, tu vas te marier, c'est un ouvrier de la scierie, etc. Donc, son rêve se réalise et en même temps s'effondre. Et c'est absolument bouleversant. Alors, dites-nous-en un peu plus sur Marie-Ernestine, Laurent Mauvignier.
Cette histoire de Marie-Ernestine, pour moi, c'était vraiment... je voulais trouver quelque chose qui soit... j'allais dire le point d'origine d'une chute familiale, quoi, d'une, c'est-à-dire que son mariage, sa déception de ne pas pouvoir devenir pianiste, ce drame en fait, parce que c'en est un, finalement c'est le point de départ de tout ce qui va dans le roman conduire à la déchéance de sa fille, puisque ça va être impossible pour Marie-Ernestine d'aimer une enfant qu'elle a pas désirée, en tout cas avec cet homme-là. Puisque tout le monde lui dit, par exemple, des choses qu'on peut dire souvent comme qui sont censées être des choses heureuses ou des compliments. Oh, elle ressemble, c'est le portrait de son père, etc. Alors, mais pour Marie-Ernestine, c'est une catastrophe puisque le portrait de cet homme, justement, elle ne l'aime pas, quoi.
Alors d'ailleurs, oui, c'est un jeune homme trop gros que son père lui présente, et donc on lui offre un piano et un mariage. Elle pleure et soudain. Le noir du piano porte le deuil de son avenir, écrivez-vous. Et c'est vrai, mais alors, ce qu'il y a de très beau dans le roman, c'est que ce Jules n'est pas un mauvais homme.
Non.
Ça, c'est très important. C'est pas le type qui dit, voilà, je me marie avec la fille de mon patron, ça me permettra d'augmenter mon train de vie, de monter en grade, etc. Non. Il va la voir, il la courtise avec timidité en lui apportant des marguerites, et il l'aime. La nuit de noces que vous décrivez ou que vous inventez est absolument terrible, mais d'autant plus terrible que lui, il voudrait, à travers cette première nuit ensemble, exprimer tout son amour, et il n'est plus que désappointé. Il est vraiment meurtri le rejet de Marie-Ernestine, qui en effet... ne peut pas supporter même son contact. Et d'ailleurs, le contact des hommes après lui, puisqu'elle se remarie à la suite de la mort de Jules dans la guerre de 14. Mais c'est ça qui est très beau, je trouve. C'est-à-dire, oui, nous, c'est une société patriarcale, mais l'homme, en l'occurrence, ce gros Jules, n'est absolument pas un mauvais homme.
Non, mais ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que... ce que je voulais un petit peu pas montrer, je veux dire, mais en tout cas pour moi, ce qui était important d'essayer de faire ressentir, c'est que certes, c'est une, il y a évidemment cette période, l'aspect patriarcal pour les femmes, mais pour les hommes aussi, montrer que ces hommes sont aussi des êtres dominés par la société dans laquelle ils sont. Soit ils se tuent au travail littéralement, soit ils sont de la chair à canon. C'est-à-dire que ce soit les hommes ou les femmes, personne n'est propriétaire de son corps. En fait, personne. Et pour moi, c'était vraiment important de ne pas être manichéen, d'autant que les rôles changent au fur et à mesure des époques. Par exemple, la mère de Marie-Ernestine, elle est une femme plus ou moins effacée, soumise à son mari. Quand celui-ci disparaît et que la guerre arrive, c'est elle qu'on finit par appeler la patronne et qui prend toute sa place.
Que dans la première partie du roman... on ne connaît pas son prénom. Mmh. Elle est la préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser. Ouais. Et puis tout d'un coup, le prénom surgit quand même. Jeanne-Marie. Et effectivement, les hommes sont mobilisés, ils vont à la guerre, ils deviennent, comme je dis, de la chair à canon, et les femmes doivent prendre leur place. Donc, d'une certaine manière, cette Jeanne-Marie s'épanouit
ouais.
et devient la patronne. Mais alors, là, je vais peut-être vous chicaner un peu, parce que vous parlez des hommes qui décident de l'avenir des femmes sans leur demander leur avis. Et c'est le cas de Firmin. Il dit, tu vas épouser Jules, ça ne se discute pas. Elle est très malheureuse, d'ailleurs elle tente de se suicider, mais elle revient, si j'ose dire, à la raison, elle finit par accepter, et vous dites dans un entretien, le roman n'a d'intérêt pour moi que s'il nous parle d'aujourd'hui. La violence du patriarcat est une question complexe et collective. Et vous dites... Aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont comme ça, il faut se méfier. Plus j'écrivais, plus je me disais que ce monde ressemble au nôtre. Et moi, Laurent Mauvigné, plus je lisais, plus je me disais que nous avons changé de monde. Ce ne sont plus des hommes, les pères, qui décident de l'avenir de leur fille. C'est-à-dire, voilà, l'autorité... puissance paternelle a été remplacée dans les familles par l'autorité parentale. L'égalité des conditions, pour reprendre le langage de Tocqueville, a fait son œuvre.
Oui, c'est sûr.
Les femmes ne sont plus vouées à l'entretien de la maison, préposées aux confitures et aux chaussettes à repriser. Le monde est ouvert à leur curiosité, à leur ambition, à leur esprit d'entreprise. Et donc ce livre, voilà. Nous ne vivons plus, nous autres occidentaux, dans une société comme celle que vous décrivez, Laurent Mauvigné.
Non, non, c'est certain, c'est vrai que même quand je me souviens de cet entretien, au moment où j'ai dit ça, je me suis entendu le dire en me disant « Ouais, enfin, il y aurait des quand même, c'est pas pareil quand même, quoi, pour des tas de raisons. » Mais après, je me demande toujours, j'ai pas de réponse, à vrai dire, là-dessus, mais évidemment, il y a un écart incroyable. Bon, aujourd'hui, les femmes sont indépendantes financièrement, par exemple. Cette question-là, elle est primordiale. On peut faire... Et puis, cette idée que la parole du père, par exemple, ne se discute absolument pas, évidemment, on n'en est heureusement plus là.
On n'en est plus là, oui, quand même.
Quand même, ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, en écrivant le livre, j'étais à la fois marqué par, effectivement, un écart de temporalité. Là, je me dis, oui, il y a quand même un siècle qui est vraiment bien passé, quand même. Ça, je le sentais. Mais en même temps, je me disais que aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de... C'est plutôt une question d'échelle, en fait. Comme si, en termes d'échelle, on n'est heureusement plus dans quelque chose d'aussi marqué, d'aussi dramatique. Mais par contre, on est quand même toujours régi par des rapports de force, en tout cas, quoi. Et je me dis que la question, c'est comment chacun... Ce qui reste un peu vrai, quand même, dans tout ça, c'est comment chacun peut essayer, aujourd'hui, de faire la différence entre le rôle que la société veut lui faire vivre et celui que intimement il désire. En fait.
Oui. Mais on peut se demander si le rapport de force parfois peut jouer en faveur des femmes. Alors je vous lis l'article 213 du premier code civil. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Les mots de protection et d'obéissance n'ont pas résisté à la grande révolution égalitaire. Là, en quelques décennies, la situation juridique et donc la situation effective des femmes a changé de fond en comble.
Complètement.
Ça, vous êtes...
D'ailleurs, entre Marie-Ernestine et sa fille, déjà, le rapport à la révolte, on va dire, une forme de révolte, n'est pas du tout la même. Les deux sont voués à l'échec, mais Marie-Ernestine se soumet, ce qui n'est pas le cas de Marguerite.
Voilà, alors nous verrons. Alors, un mot quand même, avant de quitter Marie-Ernestine, il y a cet autre personnage absolument extraordinaire, qui est Florent Cabanel. Parce que quand elle découvre son talent pour le piano, en fait, c'est son professeur, Florent Cabanel, qui pointe le don de Marie-Ernestine. Et quelque chose d'un sentiment amoureux naît entre ces deux personnages, ces deux personnes en l'occurrence. Et puis, Florent Cabanel est mobilisé, comme Jules. Il revoit Jules, d'ailleurs, dans les tranchées, sur le front. Il l'apprécie, il le dit dans une lettre à Marie-Ernestine, mais alors que Jules meurt dans l'Argonne, en mai 1907, je crois, ouais. Florent Cabanel survit, il survit, mais dans quel état ? C'est une gueule cassée, il a le visage détruit, et il envoie une lettre absolument bouleversante à Marie-Ernestine pour... voilà. En plus, ils se croisent, et là, Marie-Ernestine est terrible, parce que quand elle le voit, elle a, semble-t-il, une attitude de rejet. Et enfin, toujours est-il que... Alors, tout ça, c'est vrai, la lettre de Florent Cabanel, le hélas de Florent Cabanel, c'est vous ou c'est Florent Cabanel?
Je crains que ce soit moi, quand même. Là, je crains que ça... ouais, si, je crains que ce soit moi, là.
Ouais. Ah ben non, je ne le crains pas, moi, je vous admire, c'est absolument, absolument magnifique. Alors, mais ce personnage, il a existé.
Non.
Non,
Florentin Cabanel, non. Non, non.
Mais non.
Mais si, je dois l'avouer, il n'a pas existé.
Oh non.
Mais en même temps, maintenant, il existe, vous voyez. Pour moi, ouais. Parce que je l'ai aimé vraiment, celui-ci. Vraiment.
Parce que là, il y avait des lettres de Florent Cabanel à Marie-Ernestine que Marguerite a découvertes. Ouais. C'est dans votre tête que tout ça s'est passé.
Ouais, celui-ci, complètement. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire.
Moi aussi.
Cette aventure-là.
Alors à la fois, je suis admiratif et un peu déçu.
Un peu déçu, oui.
Parce que j'aurais voulu qu'il existe, ouais. J'aurais voulu en parler. D'autant plus que cet épisode d'ailleurs de la guerre de 14, de manière générale, et de Florent Cabanel, m'a fait penser à ce poème absolument extraordinaire d'Aragon dans Le roman inachevé. Tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Et puis les derniers vers... Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un nom d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Ah, vous êtes en train de le réciter en même temps que moi.
Ah, j'adore ce poème.
Donc ce poème.
Ah, je l'adore.
Ah, vous l'adorez aussi.
Ah, je l'adore. Ouais.
Ah oui.
Et j'y ai pensé évidemment.
Vous y avez pensé en écrivant
tous les jours.
C'est pas vrai.
Ah, je vous assure, j'ai pensé à ce poème tous les jours.
Ah oui.
Ouais.
Ben oui, c'est vrai. On n'en a jamais mieux parlé de cette, de cette hécatombe absolument épouvantable.
Ouais.
Donc je me remets doucement de la non-existence de Florent Cabanel et j'avance. Et parce que votre livre se déroule sur une longue période, donc nous avons la guerre de 14, nous avons la mort de Jules, et là-dessus d'ailleurs, avant de venir à la question que je souhaite vous poser, vous faites usage assez souvent de votre livre, de cette figure que Gérard Genette appelle la prolepse, c'est-à-dire l'anticipation temporelle. Vous dites des choses en quelque sorte avant qu'elles n'arrivent. Par exemple, Jules, ça, j'aurai d'autres exemples, mais ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que Jules, vous dites, il est mort dans l'Argonne, et vous le dites avant sa permission, avant qu'il ne se retrouve pour 6 jours avec Marie-Ernestine, accroché à son bras pour une fois, fier de lui. Donc tout d'un coup, tout se déroule dans l'ombre de la mort.
Ouais.
Et c'est ça aussi qui donne quelque chose comme une ambiance de fatalité dans votre livre. Hein, ouais, même sur Florent Cabanel, vous dites le ressentiment dans lequel il a vécu le reste de ses jours. Bien avant presque que nous faisions connaissance avec lui. Et Marguerite, nous savons que son visage a été effacé de toutes les photos de la famille avant même qu'elle n'apparaisse.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est une manière de faire percevoir la tragédie. La tragédie. Mais alors justement, il y a la guerre de 14, et puis il y a l'exode, et la guerre de 40, et... Ce qu'on comprend mieux aussi dans votre livre, c'est, le soulagement provoqué par l'armistice, parce que pour beaucoup de familles, c'était le signe qu'ils n'enverraient pas, cette fois-ci, leur fils à la guerre, c'est-à-dire à l'hécatombe. Laurent Mauvignier.
Oui, ça c'est très important parce que moi, comme j'ai entendu et appris les deux guerres mondiales à l'école et à la façon dont, avec la façon dont on en parlait, c'était deux événements totalement séparés. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, les 20 ans qui séparent ces deux guerres, en fait, c'est rien.
C'est rien. Oui, c'est rien, bien sûr.
Et bien entendu, la mémoire pour les uns et les autres est très vive. Quand on doit repartir à la guerre, quand la génération d'après doit repartir à la guerre, doit partir à la guerre, mais sur les traces de leur... Quand tout le monde a en mémoire la boucherie de 14, et tout le monde est terrorisé à l'idée que ce soit ça qui recommence. Donc, évidemment, l'armistice est... Alors, la question de la paix et de la capitulation se pose, évidemment, à ce moment-là. Est-ce que... parce que je crois aussi tout le monde a conscience que de toute façon cette guerre à ce moment-là la France ne peut pas la gagner.
Ah oui, c'est ça.
D'abord en termes de population, je crois que c'est la moitié d'une population en moins. C'est vraiment les forces sont pas du tout égales. On n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 14. Quoi. Donc il y a cette, autant on a parlé de la fleur au fusil en 14, autant en 39 c'était pas du tout ça quoi, c'était vraiment une terreur collective quoi. Donc avec et puis avec la certitude que c'était pour aller vraiment au casse-pipe quoi.
Oui.
Donc comment faire avec ça? Et moi ce qui m'intéressait c'était aussi de montrer en parallèle deux générations qui finalement se retrouvent dans une situation assez symétrique et en même temps totalement différente quoi.
Et... Oui, mais vous dites, certains en avaient remercié la Vierge parce que grâce à l'armistice, la vie de leur fils serait épargnée, on arrêterait cette folie avant qu'elle décime notre jeunesse. Et donc, on pensait que le maréchal Pétain avait fait preuve de sagesse voilà. En signant cet armistice.
Ouais. Oui, parce que... Ça, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui, qu'on ne voit plus vraiment. Oui. Mais si on essaie de se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, alors il ne s'agit pas ni de justifier qui ou quoi que ce soit, mais simplement d'essayer de comprendre que pour une part de la population, il y avait quelque chose de rassurant. Parce que tout le monde était complètement mortifié par les massacres de 14. Faut oui, ça on l'a un peu perdu de vue aujourd'hui, alors que c'est très important en réalité.
Oui. Alors, ça nous permet d'en venir à l'autre personnage central de votre livre, Marianne Estine, Jules, Florent Cabanel, je m'en mets toujours pas, et puis Marguerite. Marguerite est donc la fille de Marie-Ernestine et de Jules, qu'elle a très peu connu, et dont elle fera, parce qu'il est mort à la guerre, etc., un héros. Et les choses tournent très mal pour Marguerite. Alors, que devient-elle? Que lui arrive-t-il, Laurent Mauvignier?
Alors, j'ai l'impression que Marguerite, je me suis posé beaucoup la question justement j'arrive pas vraiment à définir ce qui lui arrive. Ce que je sais ou ce que je suppose, c'est que avoir vécu une enfance où l'on vous pose en fille d'un héros, ça vous détruit en fait, parce que cette figure héroïque, elle est tellement imposante, là, c'est la figure du commandeur. Là, elle n'a plus aucune place pour exister. En fait, c'est une enfant comme ça qui doit être toujours dans les pas de son père et même de sa mère qu'elle admire en fait, parce que c'est pour elle, c'est une grande pianiste qu'elle écoute en cachette, etc.
Oui, en cachette, parce que sa mère ne veut jamais jouer pour elle.
Sa mère ne veut jamais jouer
ça,
pour elle.
Ça, c'est vrai.
Je crois que c'est vrai, ouais.
Oui, elle joue pour les autres. Elle joue pour les autres. Pour elle, ouais. Oui,
oui. Donc... parce que je pense que c'est cette relation un petit peu. Je pense que Marguerite devient une sorte un objet de cristallisation pour sa mère, et pour elle, elle est tiraillée entre plein d'injonctions contradictoires en fait, qui sont impossibles, et donc elle a forcément un moment un désir d'émancipation. Puis elle assiste aussi quand même à du mensonge, à de l'hypocrisie, elle voit se faire une vie qui autour d'elle est quand même basée, quand sa mère se remarie, etc. Elle voit tout un tas de choses, elle se dit, mais ça va pas
oui,
du tout.
Oui, elle se marie avec un notaire, ouais. En lui spécifiant qu'ils feront chambre à part, parce qu'elle ne veut pas qu'un homme la touche. Curieusement, le notaire accepte. Et donc, elle a ce notaire, Lucien, je crois,
ouais.
et son fils, Rubens, étrange prénom. Et effectivement, voilà, c'est le nouveau voisinage de Marguerite. Marguerite qui est envoyée travailler dans un magasin, les vêtements Claude. Et là, elle rencontre une autre, une vendeuse, Paulette, qui l'initie à des plaisirs illicites. Et puis aussi, là c'est très intéressant, ce Claude en question veut coucher avec elle. Elle s'y refuse d'abord. Paulette lui dit faut se laisser faire pour pas se laisser faire, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et donc, elle se laisse faire. La femme de Claude découvre un moment le poteau rose de Monsieur Claude. Elle est renvoyée. Et alors, ce qui est terrible aussi, c'est le qu'en dira-t-on ? La rumeur, là, justement, de cette société patriarcale, et je persiste à dire que notre monde a changé, c'est elle et Paulette qui sont responsables, alors qu'elle a été pervertie
à
l'âge de 13 ou 14 ans. Ce sont des salopes.
Ouais.
Ce sont des salopes, et elle rentre chez elle, marquée, en quelque sorte, du sceau de l'infamie. Et puis... Et puis, quand même, elle se marie. Elle rencontre André. C'est vrai, ça ?
Ouais.
Ah bon, c'est vrai ?
Ah ben ça, oui.
Ah ben oui, forcément.
Ben oui.
Parce que
sinon, je ne serais pas là.
Sinon, vous ne seriez pas là.
Je ne serais pas là.
Vous êtes le petit-fils de Marguerite et d'André. Et André, c'est un amour fou entre les deux.
Ouais.
Hein ? Un amour physique
et
sentimental. Et puis, André... Et il fait prisonnier de guerre très longtemps. Marguerite va voir un officier allemand pour avoir des nouvelles de son mari. Elle revient semaine après semaine. Elle est, sans être amoureuse, attirée par cet officier. Une liaison a lieu. Et puis continuez. Qu'est-ce qui se passe après ? Laurent Mauvignier.
Après, je crois qu'il se passe qu'il on arrive à la libération et c'est l'effondrement de Marguerite parce que c'est il y a le retour de d'André.
Oui, mais attendez, avant la libération, il y a cette visite. Cet officier allemand la ramène chez elle.
Ouais, un soir.
Un soir, et il lui dit. Il demande à Marie-Ernestine de jouer enfin pour sa fille, de Schubert, je crois.
Ouais.
Et donc, Marie-Ernestine le fait, mais elle dit, après cet épisode, l'officier allemand s'en va, il fait le Sanalzi, elle lui dit « tu n'es plus ma fille », et Marguerite lui répond « je n'ai jamais été ta fille ». Mais voilà, elle est complètement répudiée par Marie-Ernestine, Lucien et les autres. Lucien tente d'arranger les pots cassés.
Ouais.
André revient. André apprend qu'elle l'a trompé avec un officier allemand. Et que se passe-t-il alors ?
Je crois que là, on arrive vraiment à ce moment, j'allais dire, où on glisse vraiment dans les années 50 et dans une modernité, je peux dire, de laquelle je serais issu, d'une certaine manière. C'est-à-dire un monde de... Mais peut-être ça commence déjà avec Paulette, pour moi. Paulette, elle est très importante dans cette histoire-là, parce que quand elle dit « faut te laisser faire pour pas se laisser faire », c'est quelqu'un qui a quand même intégré l'idée de manière très pragmatique que le monde n'est pas fait pour nous, y a certains codes, si tu les comprends pas, ma petite, tu vas beaucoup souffrir, donc je te conseille plutôt d'essayer de jouer avec. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même un travail d'émancipation, un peu par en dessous, mais enfin, c'en est un. Et c'est un peu ce que Marguerite va essayer de faire, mais qu'elle ne parvient pas du tout, en fait, à vivre, parce qu'elle est dans un monde où elle est sans doute complètement isolée. Et en matière de libération, effectivement, ça la conduit à... pas seulement à un échec, mais je pense à... Et cette phrase de dire « mais tu n'as jamais été ma mère », pour moi, c'était une façon de relier vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, le mariage de ses parents. Il y a quelque chose de là, vraiment, on retourne à ce nœud, enfin, qui est vraiment le point de départ pour moi du livre, qui est vraiment, voilà, là, la boucle se boucle à cet endroit-là. Ben, de toute façon, tu n'es plus ma fille, mais je ne l'ai jamais été parce que tu as toujours refusé que je le sois en réalité. Et la conséquence de ça, c'est que une nuit de noces, on va dire, qui catastrophique en 1905 ou 7, et ben c'est une fille répudiée en 45 et qui finit à l'épuration
elle est tendue. Et on assiste d'ailleurs à cet événement terrible. C'est la collabo, alors qu'en fait, elle n'a pas collaboré. Elle a couché avec un officier allemand, ce qui n'est pas glorieux, mais ce qui passe un acte de collaboration. Et André, qu'il avait beaucoup aimé, la rejette.
Ouais,
et donc, elle se retrouve seule. André, je crois, se remarie, non ?
Oui, mais après.
Après, oui. Après sa mort.
Après sa mort.
Oui, ouais. Et donc, elle n'est pas morte d'alcoolisme, mais elle se réfugie dans l'alcool.
Ouais.
Et elle meurt assez jeune.
Hein, 41 ans. Ouais.
41 ans en 1954.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc vous n'avez pas connu, en fait.
Non.
Vous n'avez pas connu. Vous n'avez connu Marguerite que par les récits.
Que par les récits, ouais.
Que votre père vous en faisait.
Non, ma mère.
Ah, c'est votre mère.
C'est ma mère qui m'en parlait. Mon père n'a jamais. Je ne l'ai jamais entendu parler de sa mère.
Jamais.
Jamais. Pas une seule fois.
Ah oui.
Par contre, il l'avait dit à ma mère. Il avait un petit peu raconté les choses à ma mère. Et donc, c'est par elle que j'ai appris, mais d'une certaine manière, c'était déjà un récit de récit, quoi. Donc, oui. Le degré de...
Et c'est vrai que sur les albums de famille, sa photo
était
déchiquetée.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Ouais.
On avait voulu vraiment l'effacer.
Ouais, c'était découpé.
C'est la honte de la famille.
Ouais,
ouais.
Oui, ça, c'était très net pour moi quand j'entendais parler d'elle. C'était très net. C'était une vaurien, quoi.
Oui. Et d'une certaine manière, dans ce livre, vous la réhabilitez. Non pas dans ses actions, mais vous montrez que c'est un personnage malgré tout bouleversant, quoi.
C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'on puisse. C'est toujours pareil, les bons et les méchants. Non, la vie est quand même heureusement plus nuancée, quoi.
Oui, oui.
Je voulais pas. C'était pas une question de faire un livre de réparation, mais c'était quand même essayer de retrouver la part d'humanité des uns et des autres dans tout ça, c'est-à-dire que sur la question des dominations, c'est quand même heureusement plus nuancé et puis du coup plus intéressant et plus, il me semble, plus profond que simplement la vilaine collabo, parce qu'effectivement de toutes ces femmes tondues il y a autant de situations que de femmes.
Oui, c'est ça.
Donc c'est très difficile puis c'est très, en tout cas ça serait facile aujourd'hui de dire de distribuer bons et mauvais points. C'est, pour moi, il s'agissait vraiment pas de ça, essayer de comprendre. Moi, ce que j'ai entendu toute mon enfance, c'est même pas finalement l'histoire de cette femme tondue, c'est l'histoire de mon père, un enfant de 7 ans, en train de regarder sa mère se faire humilier.
Voilà, c'est ça.
C'est ça le cœur de la chose.
Oui, oui. Mais ce qui est terrible, justement, c'est qu'elle est rejetée par la société, mais aussi par les siens,
ouais.
Par sa mère, et après, par André, son mari.
Ouais.
Donc elle est vouée à la solitude. Et elle fuit la solitude dans l'alcool.
Ouais.
Voilà. Et elle meurt à 41 ans, comme vous l'avez dit. Mais alors justement, venons-en maintenant, peut-être, Laurent Vignier, à une généalogie plus rapprochée. C'est-à-dire, ce n'est pas votre père qui vous parlait de Marguerite, mais votre mère. Et justement, votre père est... présent, enfin, dans ce livre, très discrètement, mais on n'en sait pas grand-chose. On apprend un peu plus dans le livre d'entretien que vous publiez aussi aux éditions de Minuit, Entretien avec Pascaline David, quelque chose d'absent qui me tourmente. Qui étaient vos parents ? Donc, notamment le fils de Marguerite. Et que faisait-il dans la vie, Laurent Mauvignier ?
Alors, quand j'étais enfant, mon père travaillait dans une usine de métallurgie et il faisait de la peinture. Donc, il était au-dessus des cuves, à 10 mètres de haut, en train de peindre des charpentes métalliques. Et après, il a quitté ce, ce travail pour devenir éboueur. Et je me souviens de ça, c'est-à-dire, il entrait à la ville, comme on disait. Donc, il pouvait acquérir du coup un statut de fonctionnaire et avoir un salaire un petit peu... Et c'était pas une promotion sociale, mais c'était quand même d'un seul coup une assurance de pas connaître le chômage. Et je me souviens vraiment d'une joie, mais profonde, quoi. Une joie incroyable, quoi. Et,
ah bon ?
Ah ouais, ouais, ouais. Oui, parce que le salaire était un peu plus élevé, et puis parce que c'était... Il ne se leverait qu'à 3 heures du matin pour aller vider les poubelles des uns et des autres.
Alors que c'était il n'a pas vécu ça comme une sorte de déchéance.
Pas du tout, au contraire. Ah non, au contraire, ouais.
Ah oui.
Ouais.
Et votre mère, que faisait-elle ?
Ma mère, à cette époque, s'occupait de ses enfants. J'ai longtemps dit, comme tout le monde, elle travaillait pas. Mais en fait, elle s'occupait de 5 enfants qui étaient quand même assez vivants, on va dire. Et je pense que c'était un vrai travail.
On était cinq,
ouais. Et il y avait que son salaire à lui pour faire vivre cette personne. C'était quand même pas beaucoup.
Dans la ville de Descartes.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Mais Descartes, je savais pas qu'une telle ville existait.
Et oui.
Mais ça vient du philosophe ou
bah, c'est... Bien sûr, il est né là, ouais.
Ah, c'est... Donc, on l'a baptisé la ville du nom du philosophe,
ouais,
c'est ça?
Ouais, ouais. Ça s'appelait La Haye avant, et après c'est devenu La Haye Descartes.
Et c'est devenu Descartes
tout court.
Voilà. Et dans votre œuvre, c'est La Bassée.
Ouais.
C'est ça. Donc ce n'est plus. Pourquoi ?
Je ne pouvais pas garder le nom parce que je ne voulais absolument pas donner une image. La vision que j'ai envie de dire, c'est la mienne. Je ne peux pas prétendre qu'elle soit la vérité sur ce lieu, sur cette ville. J'aurais trouvé ça vraiment très surplombant et un peu un abus de pouvoir, en fait, de dire, voilà, je vais vous expliquer, Descartes, ils sont comme ça, les gens, ceci. Non, je peux donner un regard que j'ai, moi, une perception que j'ai, mais ça doit rester, je pense qu'il faut garder un peu de...
Mais là, vous êtes écrivain, Laurent Vignier, vous écrivez dans une langue superbe, et vous êtes le fils d'un ouvrier devenu éboueur et d'une femme qui s'occupait de ses enfants. Alors, c'est votre trajectoire qui m'intéresse. Quelles études avez-vous faites, Laurent Vignier ? Est-ce que vous avez été jusqu'au bac, dans l'enseignement secondaire ? Que s'est-il passé pour vous ?
Non, après, j'ai eu une année de troisième catastrophique, parce que, justement, ça allait très mal entre mes parents, ce qui est donc a emmené mon père jusqu'au suicide.
Ah, ça allait mal entre eux aussi, c'est ça qui...
Ouais, il y a quand même beaucoup de...
Oui, oui.
À la fin, en tout cas, la dernière année a été très dur. Et ce qui fait que moi, qui étais quand même un petit peu destiné, tout le monde disait, bah, évidemment, toi, tu auras le bac, etc. L'année de troisième a été catastrophique. Ce qui fait que j'ai atterri en première année de BEP comptabilité. J'aime autant vous dire que j'ai pas fait beaucoup d'étincelles là-bas. Sauf que j'ai appris à taper à la machine. Voilà.
Ah oui.
Ouais, c'est là que j'avais une professeure. J'avais 2 heures de dactylo toutes les semaines. Professeure qui était le sosie de Marguerite Duras.
Ah oui, oui.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc j'ai appris ça. Et puis après, je suis entré aux Beaux-Arts. Après.
Ah d'accord.
Et à l'époque, le bac n'était pas obligatoire pour les Beaux-Arts.
D'accord. Vous êtes entré aux Beaux-Arts et c'est aux Beaux-Arts que vous avez découvert la littérature ?
Non.
Ou non ?
Non, ça j'avais commencé... Enfin, moi j'avais... J'ai commencé à écrire très petit, en fait.
Ah oui.
À 9 ans, à 9 ans, comme j'ai eu des périodes où j'étais hospitalisé, j'ai une tante qui m'avait donné un livre, une espèce de digeste un peu de la comtesse de Ségur, et j'avais adoré ça. Puis,
la vraiment, mare au diable, non ?
Un bon petit diable.
Un bon petit diable, pardon.
Un bon petit diable. Et j'ai continué à écrire la suite, et puis après j'ai écrit un autre récit, etc. Puis, bah, à 12-13 ans, j'ai fait 2-3 romans, comme ça, j'essayais des narrateurs, j'essayais des trucs, alors que je connaissais rien de tout ça. Puis à la découverte des Misérables, à 13 ans, oui. J'ai lu Les Misérables, ça a été quand même vraiment...
C'était décisif.
Ah ouais, ça a été absolument décisif. Ouais.
Et la très grande littérature, vous l'avez découverte aux Beaux-Arts, Proust, je sais pas, Flaubert.
Oui, à peu près dans ces années-là. Bon. Mais alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'en même temps, je découvrais les avant-gardes, je découvrais des choses qui n'avaient rien à voir. Et alors, je me souviens, par exemple, d'avoir découvert Coltès avant d'avoir découvert Racine. Et je me disais, oh, mais en fait, non, ça ne s'oppose pas. Pourquoi ça s'opposerait ? En fait, il y a des choses qui se répondent, au contraire. Je trouvais des liens qui...
Oui, vous parlez à un moment aussi de Louvre-Basse. basse de Denis Roche.
Ouais.
Et la bassée, c'est lié à Louvre Basse.
Ouais, c'est tout à fait.
Et Denis Roche, qui a été mon éditeur au Seuil, était effectivement un grand protagoniste de l'écriture d'avant-garde.
Ah bah complètement.
Et Louvre Basse est un livre d'avant-garde.
Ah oui, moi j'ai beaucoup pratiqué ça quand j'étais étudiant. Et Louvre Basse, le livre, effectivement, ça c'est... Voilà, moi j'ai... Et en même temps, je découvrais la littérature classique en parallèle de ça. Et c'est des expériences qui me... pour moi, qui se nourrissaient, alors que je savais très bien que, d'un point de vue historique, elles se sont...
Oui, et surtout que l'avant-garde, c'était effectivement le refus de mimésis, le refus de la représentation, l'écriture un peu fermée sur elle-même. C'est la phrase de Ricardou, on passe de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Ouais. Mais vous avez commencé par l'avant-garde, et vos livres... C'est absolument l'écriture d'une aventure. Donc, d'une certaine manière, vous êtes passé de l'avant-garde à une forme de littérature plus classique. Et l'on pense à des auteurs, justement, comme Proust, entre autres, en vous lisant.
Oui, mais j'ai l'impression en même temps que, pour autant, j'espère ne pas avoir abandonné le XXe siècle en cours de route, que mon travail soit quand même traversé par la mémoire, en tout cas de ce qu'a été le XXe siècle, comme il est traversé par la mémoire de ce qu'a été le XIXe, d'une certaine manière. Essayer de... Mais je me souviens aussi, c'est vrai que cette période d'avant-garde, comme ça, quand j'étais au Beaux-Arts, on était tous les étudiants, on était quand même... On avait un désir de fiction qu'on ne trouvait plus. Alors, on aimait beaucoup les avant-gardes, mais il nous manquait quelque chose.
Ah, il manquait quelque chose.
Il nous manquait quelque chose. Alors, ce quelque chose, on allait le chercher au cinéma. Alors, on voyait Scorsese, tout ça, on disait, oh, c'est un peu notre Dostoïevski à nous, en fait. Vous voyez,
oui,
il y avait quelque chose de ça. Et il y avait quand même, dans les romans du 19e, une sorte de quelque chose qu'on trouvait qui nous plaisait beaucoup. Alors, on rêvait quand même un peu de ce monde-là, de ce rapport à la fiction, de ce rapport au souffle romanesque, etc.
Mais ça, on le trouve aussi dans certains romans du XXe siècle qui n'avaient pas le label d'avant-garde, mais qui ont fait avancer le roman. Je pense à Garcia Marquez, par exemple.
Ouais.
Cent ans de solitude, L'amour au temps du choléra, d'autres auteurs. Ouais. Et ils ont compté pour vous ces grands romanciers du XXe siècle?
Ils ont compté un petit peu après. Ouais.
Ah oui.
Oui, parce que le XXe siècle était pour moi très français, pour le coup. Et ça a été... ça s'est arrivé plus tard. Ouais.
Alors, une dernière taquinerie, Laurent Mauvignier. En vous lisant, j'ai pensé à cette phrase extraordinaire de Proust... Habitué dès mon enfance à prêter même à ce qui est muet le langage des classiques. Je trouve que ça s'applique à vous. Mais, concession, je ne sais pas, à la critique de la domination, vous allez me le dire, vous épousez une forme de langage tout à fait étrangère aux grands romanciers dont nous parlions, ou romancières d'ailleurs, hein, Marguerite Duras. Vous dites souvent, ne vous fâchez pas, toutes et tous, celles et ceux, toutes et tous, celles et ceux, comme si le neutre n'existait plus, comme si c'était une manière d'invisibiliser les femmes. Est-ce que c'est dans cet esprit que vous utilisez? Je dis souvent, pas très souvent, hein. Ma lecture n'a pas du tout été gênée. Mais évidemment, vous n'allez pas jusqu'à l'écriture inclusive,
non.
Rassurez-moi,
pas
dans votre prochain roman.
Non.
Non, mais alors, c'est quoi? C'est aussi une façon de dire, il faut tenir compte de la volonté des femmes d'être, même syntaxiquement, grammaticalement, mises à égalité avec les hommes.
Oui, autant, il y a des choses que, vraiment, oui, la littérature inclusive, tout ça, moi, je peux pas, visuellement, je peux pas.
On peut pas, oui.
Mais
ça, c'est un peu de l'oralité inclusive.
Oui. Mais après, j'entends bien la question, en fait.
Ah.
J'entends la question et je me dis qu'il y a peut-être des moyens un petit peu moins... laides, peut-être. Des choses un petit peu plus ouvertes. Je vais prendre cette question en compte, mais ne pas se laisser enfermer par cette question.
Bon, bah, très bien. Ben, je suis tout à fait rassuré. Alors, je cite le titre de votre magnifique roman, je répète, Laurent Mauvignier. Il est publié aux éditions de Minuit. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Frédéric Cailloux. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie et l'œuvre d'Alexis de Tocqueville ». Mes invités seront Françoise Mélogneau et Sophie Vanden Abélé-Marchal. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.